et demain, et au lendemain des rencontres internationales de Chicago, le développement des parcs scientifiques dans les pays européens et en Amérique du Nord. Passez une bonne journée à l'écoute de France Culture. Il est précisément 8h30, Les Chemins de la Connaissance, la série de Roland Hoguet intitulée Le Bréviaire des Tyrans. Ce matin, Silla, vrai dictateur et faux tyran, avec le concours de François Tinard.
François Tinard, nous vous devons un Silla qui a été publié chez Fayard. Et je voudrais, laissant votre livre de côté pour l'instant, rappeler un peu la réputation de Silla telle qu'elle peut avoir été faite par les manuels d'histoire et par votre prédécesseur, Jérôme Carcopino. Une réputation qui, il faut bien le dire, est assez désastreuse. Le mot « tyrannie » est employé constamment et je pourrais donner quelques exemples. D'abord, l'anecdote célèbre de Silla, qui à ce moment-là est au pouvoir à Rome. Il a interdit à un de ses lieutenants, qui s'appelle Ofella, de se présenter au consulat. Ofella se présente quand même. Un jour, Silla est assis à son tribunal, au temple de Castor, je crois, et il aperçoit Ofella en train de faire de la propagande sur le forum. Il appelle un centurion et il le fait égorger au milieu de ses futurs électeurs. Autre anecdote, je rappellerai que Silla est mort après un accès de fureur. Accès de fureur dans lequel il a étranglé un fonctionnaire, disons, d'une petite ville de Pouzol, je crois, alors qu'il a abdiqué le pouvoir et qu'il n'est plus qu'un simple citoyen. Et ceci dit, je dois rappeler que 20 ans auparavant, nous avions eu des tribuns du peuple, Saturninus et Glaucia, qui avaient, eux, gouverné Rome par la terreur, disons, enfin, jetant des prêteurs à bas de la tribune parce qu'ils jugeaient à une heure où eux-mêmes avaient convoqué une assemblée. Enfin, quand même une atmosphère de violence dans cet homme qui va, disons, de l'époque 103 à 80, en gros, qui pourrait nous faire penser qu'il y a bien là la source de la tyrannie à Rome.
Oui, la réponse à la question est assez difficile parce qu'il y a dans ce que vous dites des choses de nature différente. C'est-à-dire que pour ce qui concerne Silla, il y a des choses qui sont tout à fait exactes. L'exécution d'Ofella est tout à fait exacte. En revanche, le fait qu'il ait étranglé un fonctionnaire, comme vous dites, relève évidemment du mythe. Cela dit, là où vous avez parfaitement raison, c'est que Rome est gouvernée par la violence, mais ça remonte plus loin que 103, ça remonte à l'époque des Gracques. Pratiquement toute l'historiographie ancienne et moderne fait naître la révolution romaine à partir des Gracques, et des troubles qui s'en sont suivis. Il est vrai que les choses se sont accélérées au début du siècle, avec effectivement Saturninus et Glaucia, et elles se sont accélérées aussi par cette guerre absolument atroce qui a opposé les Romains aux Italiens, leurs alliés de toujours. Rome a conquis le monde avec l'aide des Italiens, et est venu un moment où les Italiens ont réclamé une égalité des droits avec les Romains, et la décennie 90 a été marquée par des événements d'une violence inouïe à Rome et en Italie et par une guerre fratricide qui s'est terminée par la défaite des Italiens, mais en même temps par leur intégration dans la citoyenneté romaine. Mmh. C'est-à-dire que, au fond, ils ont perdu, mais ils ont gagné. Ils ont perdu beaucoup dans la mesure où ça a été particulièrement sanglant. Ils ont gagné dans la mesure où c'est, d'une certaine façon, la première forme de d'unité de l'Italie. Cela dit, les troubles civils ont prolongé la guerre sociale, et les anecdotes concernant Sylla ne sont au fond que illustratives d'un climat qui régnait déjà. Marius a fait exécuter à son retour en 87 un certain nombre de personnages importants dans des conditions parfaitement illégales, et on est effectivement dans ces décennies sous le règne de la terreur. Terreur qui s'apaisera après Sylla, mais sans que pour autant revienne un ordre institutionnel et un ordre social. Et effectivement, les années entre 70 et César ou Cicéron, enfin la mort de César et Cicéron, 44 et 43, sont des années qui sont marquées par des désordres extraordinaires, par une corruption électorale généralisée et par un appétit de pouvoir particulier d'un certain nombre d'hommes providentiels, Pompée bien sûr, Cicéron, César, et moi j'aurais tendance à laisser de côté Sylla en disant qu'il n'était peut-être pas le premier de ceux-là, mais peut-être le dernier des anciens en quelque sorte.
Alors on va y venir, moi je pensais un peu de tyrannie rampante quand même dans cette période. Deux mots sur Marius et le Parti populaire, et le Sénat d'autre part, parce que sinon on ne peut pas comprendre la position des problèmes. Marius, bon, il appartient au Parti des Populares, on dit que c'est un homme politique médiocre.
La carrière de Marius était une carrière assez zigzagante, si je puis dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il a fait le début de sa carrière sur une opposition très forte à la noblesse, puisqu'il a réussi à se faire élire en 107 au consulat, contre Metellus, mais sur des choses qui concernent la guerre. Au fond, sa campagne, c'était de dire il faut confier à des hommes comme moi, qui sont des hommes qui n'ont pas d'ancêtres, mais qui ont une compétence militaire particulière, il faut leur confier la guerre, et il faut cesser, effectivement, de confier les responsabilités à des gens qui sont nobles, mais qui sont complètement corrompus. Et au fond, le Parti Populariste, c'est ça. C'est un parti qui se fonde sur le concept de virtus, c'est-à-dire sur le concept de qualité personnelle, par opposition à une tradition aristocratique qui, elle, est plus marquée par la philosophie grecque et qui, au fond, se rattache plutôt à la fortune, au hasard, au sort. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les deux ennemis irréductibles qui étaient d'une part Marius et d'autre part Lutatius Catulus ont fait chacun un temple, l'un à virtus et l'autre à fortuna. Ça exprimait, si vous voulez, dans l'espace urbain, ça exprimait très bien cette opposition entre des populares en quelque sorte techniciens et technocrates et des aristocrates un petit peu désabusés. Alors cela étant dit, je ne veux pas non plus réduire cette opposition populares et nobilitas à des considérations de cet ordre. Il n'empêche que ça joue un rôle tout à fait important. Je crois que Marius a eu, à partir de 88, une trajectoire, si je puis dire, qui ne ressortissait plus à ces considérations de l'opposition entre populares et nobilitas. C'était déjà un personnage âgé, et ce qui a éveillé en lui le désir de s'opposer à Sylla, c'est, outre les vieux griefs qu'ils avaient l'un contre l'autre, c'est le fait que Rome devait mener une guerre très importante en Orient, puisque vous savez que Mithridate, en 88, avait fait exécuter tout ce qui était romain ou italien dans tout le bassin méditerranéen.
Il fallait réparer l'honneur. Hein.
Et par conséquent, il fallait absolument infliger un châtiment exemplaire à cette rébellion qui risquait effectivement d'enflammer toute la Méditerranée contre le pouvoir romain. Il y avait donc là une guerre très importante au plan symbolique, très importante aussi vraisemblablement sur les profits qu'on en espérait, et Marius, qui était déjà âgé, qui avait déjà du mal à marcher, qui avait des varices très importantes, voulait absolument se faire confier ce commandement. Et la guerre civile a commencé là-dessus. Très légitimement, le Sénat avait confié le commandement à Sylla, et Marius, par des procédés qu'il importe peu de relater ici, avait réussi, dans un mouvement populaire, à se le faire confier à lui. Et Sylla n'a pas voulu se plier à cette décision populaire, s'est appuyé sur la décision du Sénat, et ils se sont heurtés, et c'est en 88 la première prise de Rome par Sylla qui en chasse temporairement Marius.
Enfin, étape quand même décisive, puisqu'il est le premier à être entré dans Rome avec une armée, chose qui était impensable et qui allait contre toutes les institutions et toutes on peut dire toute la morale, enfin la morale publique.
Oui, tout à fait. On aurait mauvaise grâce à minimiser cet aspect des choses. Cela étant dit, j'ai essayé de montrer quelque part que l'opération de prise de Rome n'est pas une opération de prise de Rome par Sylla. C'est une opération de prise de Rome ou de... Enfin, il faudrait voir le qualificatif qu'on lui accorde. De prise de Rome, disons, pour le moment, de Sylla et de son collègue Pompeius. C'est-à-dire qu'on focalise sur Sylla parce que, précisément, Sylla a eu une histoire ultérieure. Il se trouve que Pompeius, lui, est mort à la fin de l'année. Et que, dans ces conditions-là, il disparaît. Alors, ne le faisons pas disparaître trop tôt, si je puis dire. C'est-à-dire, ne lui enlevons pas les responsabilités qu'il avait pu prendre dans cette opération contre Marius, et qui peut très bien passer, étant donné que l'un et l'autre étaient consuls, et que Marius, jusqu'à preuve du contraire, n'était revêtu d'aucune charge, qui peut très bien passer pour une opération de police. Ce qui est certain, c'est que c'est une opération de police particulièrement musclée, puisque les légions ont marché sur Rome, et les légions ont pénétré dans Rome, ce qui n'est pas tout à fait sans exemple. Ça relève un petit peu du mythe. Ce qui est sans exemple, c'est qu'il a fallu des troupes si importantes, d'une part, et que, d'autre part, la ville elle-même a été complètement investie. Et là, il est certain que ça a créé un choc psychologique important. Rome était prise, en quelque sorte, par les Romains.
Bien, alors, nous allons passer sur les événements complexes qui se sont déroulés ensuite. Sylla met de l'ordre, et puis il va faire la guerre contre Mithridate. Il laisse tout ce petit monde s'arranger entre soi, et ce petit monde s'arrange très mal, si je puis dire. Marius revient, un massacre quand même assez inouï, dont la description est horrible. La maison de Sylla rasée, bien sûr, etc. Et puis, Sylla revient, il faut dire que Marius meurt entre-temps. Et puis, il y a le fils de Marius qui reprend les rênes du Parti populaire. Et finalement, à nouveau, Sylla rentre à Rome en vainqueur. Et c'est peut-être là que la nature tyrannique ou non de son pouvoir est à discuter. À commencer par ses proscriptions qui vont par liste. Donc, on ne peut pas passer sous silence. Bon, Marius avait fait la même chose d'ailleurs, sans liste lui.
C'est pas facile d'être bref sur ce sujet, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Il est rentré donc, Sylla, vainqueur de Mithridate, chargé de toutes les dépouilles de l'Orient, c'est-à-dire avec des soldats richissimes, il est rentré en 83. Ses soldats lui ont juré fidélité, il a donc mené avec eux une guerre civile d'un peu plus d'un an, jusqu'à vaincre les marianistes, disons, le Parti populaire, et à imposer un pouvoir sur Rome. Alors je crois qu'il faut distinguer bien les choses. Effectivement, la première chose que Sylla ait faite en arrivant, ça a été de punir ses adversaires, si je puis dire. Quand Marius avait repris quelques années plus tôt Rome en 87, sa technique avait été de fermer les portes de Rome et de livrer au massacre la ville et tous les gens qui se montraient. Massacre et pillage. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de grands personnages du Sénat avaient été massacrés, dont le fameux orateur Antoine. Quand Sylla est revenu, selon moi, il a voulu limiter le massacre. Et la proscription, c'est la constitution de liste strictement limitée pour empêcher que, justement, cette fureur populaire ne se déchaîne et qu'on ait, en quelque sorte, un contre-massacre à celui qui s'était produit en 87. C'est partiellement réussi, c'est partiellement manqué, si je puis dire. C'est partiellement réussi dans la mesure où, effectivement, les victimes ont été en nombre limité, important, mais strictement limité.
1700 dans...
Les chiffres, ça, ce sont les chiffres que donne plus tard. On a, ou à Pien, on a des chiffres qu'on peut établir. Il y a exactement 520 personnes. Ça, c'est énorme. 520 personnes de l'aristocratie, c'est énorme. Et 520 personnes, comme par hasard, les plus riches, bien entendu, puisqu'il s'agit de l'aristocratie. Et donc, ça implique tous les transferts de fortune qu'on imagine. Mais il n'y a pas plus de 520 personnes. 1700, de toutes les façons, ça atteignait des chiffres tels qu'ils sont donnés, qui sont absolument invraisemblables et incompatibles avec la population de Rome de l'époque. Donc, c'est réussi dans la mesure où il a strictement empêché ses propres partisans de se livrer au carnage. C'est manqué dans la mesure où il y a eu des scènes épouvantables. Il y a eu des personnages qui ont été mis à mort dans des conditions atroces, en particulier un neveu de Marius, Marcus Marius Gratidianus, qui a été mis en pièces vivant On lui a brisé les membres, on lui a arraché la langue, on lui a arraché les oreilles, on lui a arraché tout ce qui pouvait être arraché, on lui a brisé tout ce qui pouvait être brisé, et on a fini seulement par lui arracher les yeux, c'est-à-dire qu'on voulait absolument qu'il fût lui-même témoin de cette dégradation. Au fond, c'est une dégradation du cadavre sur un personnage vivant. Donc, si vous voulez, ça a été un échec sur ce plan-là. En revanche, une fois cet accès de violence passé, il a obtenu une dictature. Je voudrais que là, on soit un petit peu plus précis. C'est vrai que la dictature est une magistrature constitutionnelle. Il y a, avant Sylla, 85 dictatures. C'est vrai qu'il se les fait conférer, selon moi, selon un processus normal. En tout état de cause, il se les fait conférer parce qu'il y avait une vacance absolue du pouvoir, c'est-à-dire que, comme il avait proscrit effectivement ses adversaires, les consuls, les prêteurs et les autres magistrats, il n'y avait plus un seul magistrat en fonction à Rome. Il fallait donc bien qu'il y eût, je dirais constitutionnellement et religieusement, un dictateur, un magistrat, qui put renouer en quelque sorte le lien continu de la magistrature à Rome. En tout état de cause, il ne s'est pas fait conférer la dictature pour punir ses adversaires. La proscription était terminée quand il a eu cette fonction. En revanche, il se trouve que la dictature était presque, je dirais, obsolète dans la mesure où ça faisait plusieurs dizaines d'années, plus d'un siècle, qu'elle n'avait pas été conférée à quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle était constitutionnelle, mais elle était devenue, je crois, pour des raisons qui seraient intéressantes de voir, insupportable. Et c'est en ça, si vous voulez, que où on peut le considérer comme un tyran. Et c'est en ça que certains de ses contemporains, à commencer même par Cicéron, dans certains de ses textes, mais pas toujours, certains de ses contemporains ont pu voir en lui un tyran. La dictature, c'est le plein exercice du pouvoir, de l'imperium. Au fond, l'histoire constitutionnelle de Rome, pour la République, c'est l'histoire des limitations qu'on a essayé d'imposer à l'exercice de l'imperium. Les consuls ont effectivement un certain nombre de restrictions très fortes à leur imperium. La seule magistrature qui n'ait jamais subi cette restriction, et pour cause, puisque c'était dans sa nature, c'est la dictature. Et je crois que au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, alors que la dictature n'avait plus été revêtue depuis plus d'un siècle, je crois que cette dictature était ressentie, ce pouvoir d'un seul homme, ce pouvoir qui fait qu'on peut ordonner la mort sur place, comme Quintus Lucretius Ofella dont vous parliez tout à l'heure, ce pouvoir est devenu insupportable. Mais il est d'ailleurs plus insupportable sur le plan du fonctionnement institutionnel que sur le plan des rapports politiques ou sociaux. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, cette histoire de fait-là, ça gênait peu les Romains. On est dans un contexte tel que, de toutes les façons, ça ne risquait pas de choquer. Sans compter qu'Ofella n'était somme toute qu'un second couteau qui s'était laissé envahir par des ambitions un peu démesurées. Et donc, personne n'a pleuré sur Ofella. En revanche, là où les Romains choquaient, c'était dans la capacité qu'avait Sylla d'imposer des lois de sa propre volonté. Au fond, il réunissait le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et source de la tyrannie, elle est là.
Et François Hinard, vous disiez quand même Sylla un peu victime d'images déformées, etc. Et en ce domaine, on ne peut pas, disiez-vous, dissocier Antoine.
Oui. Alors là, les choses se sont un petit peu compliquées pour Sylla dans la mesure où, effectivement, cette magistrature qu'il a gérée et qu'il a abdiquée, je dirais tout à fait naturellement, a pris une couleur particulière à la suite d'un certain nombre d'accidents de l'histoire. Il se trouve que la guerre civile ayant repris en 49, César a revêtu lui aussi la dictature. Il l'a revêtu dans des conditions tout à fait différentes, dans la mesure où lui, il a cumulé la dictature avec un certain nombre d'autres magistratures, le consulat en particulier, alors que Sylla était resté tout à fait dans la norme constitutionnelle en n'étant revêtu que de la dictature ou que du consulat. Et d'autre part, César s'était arrogé des droits que Sylla n'avait jamais eus, notamment celui de nommer ou de désigner aux magistratures, sinon de nommer exactement. Et donc, il y a eu une tendance de l'historiographie impériale, c'est-à-dire des héritiers de César, a reporté sur Sylla, au fond, les origines des bouleversements constitutionnels apportés par César. Au fond, la démarche a consisté à dire Sylla a provoqué une cassure dans le fonctionnement des institutions républicaines. Il est en quelque sorte le responsable des troubles qui ont eu lieu à Rome après son abdication. Il a fait que plus rien ne pouvait marcher comme auparavant. Et par conséquent, César était parfaitement fondé à revêtir une dictature, et une dictature avec un pouvoir plus fort et plus organisateur. Au fond, César, c'est l'homme d'État qui sauve la République. En latin, il la sauve. Alors que Sylla, lui, il l'avait en quelque sorte assassiné. Alors ça, c'est le premier accident. Le deuxième accident qui s'est produit, c'est le renouvellement de la proscription. Il s'est trouvé que les triumvirs après la mort de César, c'est-à-dire Lépide, Antoine et Octave, ont renouvelé la proscription, c'est-à-dire le mode d'épuration qu'avait inventé Sylla. Ils ont, eux, tué environ 300 personnes. Là, les choses sont plus difficiles parce que leurs listes sont restées ouvertes, c'est-à-dire qu'on en a rajouté puis on en a enlevé. Enfin, en gros, ça tourne autour de 300 personnes. Et après la fin des troubles civils, après la fin de la guerre entre Octave et Antoine étant vaincu, toute l'historiographie impériale a fait porter à Antoine la responsabilité de ce qui s'était passé antérieurement et donc de la proscription. Et il y a eu, si vous voulez, un travail de contamination, comme on dit en histoire littéraire, entre les portraits qui ont été dressés d'Antoine et les portraits qu'on avait de Sylla. Au fond, il s'est créé un portrait unique qui est le portrait du proscripteur. Et c'est très significatif sur un certain nombre d'anecdotes. J'ai montré ça quelque part, on s'aperçoit que il y a des thèmes qui sont des thèmes très importants de la polémique politique sur l'ébriété et un peu plus loin sur la soif de sang. Alors on apprend comme ça que Antoine était un ivrogne, et puis certaines anecdotes vont plus loin et disent il se faisait apporter sur sa table la tête des proscrits et il buvait avidement leur sang. Alors il buvait pas le sang, mais c'était une sorte d'image. Et comme par hasard, après le développement d'anecdotes de ce type, on retrouve les mêmes anecdotes, mais dans une historiographie plus tardive, on retrouve les mêmes anecdotes pour Sylla. C'est tout à fait significatif. Personne n'avait jamais dit jusqu'alors, jusqu'à Valère Maxime, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de Tibère, personne n'avait jamais dit que Sylla se faisait apporter les têtes sur sa table de seul à manger. On l'a dit parce qu'on l'avait déjà dit d'Antoine, et comme Antoine et Sylla, au fond, ce sont les proscripteurs, eh ben, les anecdotes qui valaient pour l'un valaient aussi pour l'autre. Et c'est dans ces conditions-là qu'il est très difficile, si vous voulez, d'essayer de discerner le vrai, pas seulement pour des considérations de portrait personnel, c'est-à-dire pas seulement pour savoir qui était Sylla ou qui était Antoine, même pour des événements, même pour le déroulement des faits historiques, parce qu'on ne sait jamais si finalement, tel fait qui est raconté à l'époque impériale, pour l'époque de Sylla, n'est pas en fait emprunté ou dévié de ce qui s'est fait ultérieurement à l'époque d'Antoine.
Merci François Hinard. Alors pour un inventaire plus précis, plus détaillé, dirais-je, de ce délire dont vous venez de parler, ce délire historique, on peut lire votre Sylla qui est publié chez Fayard. Par ailleurs, vous avez publié les actes d'un colloque qui s'appelle Dictature et qui
au pluriel
et qui n'est pas inintéressant. C'est publié chez De Bocard. Enfin, il existe dans les cahiers de philosophie politique et juridique dirigés par Madame Goyard-Fabre des actes d'un colloque qui a lieu en mai 84 qui s'appelle La tyrannie et c'est publié chez Vrin.
Le Bréviaire des tyrans par Roland Huguet avec la participation de François Tinard. Réalisation Arlette Dave. Demain, la vision de Tacite. France Culture, il est 8h55. À 9h05, nous retrouverons, comme chaque jeudi, une vie, une œuvre. Ce matin, une émission de Pascal Lismonde consacrée à Pic de la Mirandole, philosophe et théologien italien de la seconde moitié du XVe siècle. Avant de retrouver Jean-Christophe Augier pour le journal de 9h, je vous rappelle que France Culture a décerné jeudi dernier ses prix 1990.
Le prix France Culture a l'ambition d'attirer l'attention sur des auteurs qui ne sont pas en première ligne du fait de l'actualité ou des écrivains d'une nouvelle génération. C'est le cas de cet écrivain suédois, Jan Guillou, à qui a été décerné le prix étranger de France Culture. Ce journaliste, scénariste et dramaturge scandinave, né en 1944, écrit « La fabrique de violence », son premier livre publié en France par un nouvel éditeur, Mania. Le héros, battu chaque soir par son père, découvre que le